diffusion d'une émission de Principe Actif. Une rediff, quoi.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Et voilà. Bonne année à tous.
Bonne année. Je vous souhaite tout ce que vous souhaitiez qu'on vous souhaite. C'est le chat, mais en mieux. C'est le chat de Philippe Gueluc qui dit ça.
Ah oui.
Bon, alors voilà, un auteur, une nouvelle 2026. C'est parti et on démarre fort.
Voilà, avec l'émission numéro 70. Et aujourd'hui, on va vous parler de Marcel Proust. Alors, ce cher Marcel, il naît le 10 juillet 1871 à Paris, dans le 16e arrondissement. Donc dans le quartier d'Auteuil, dans une famille intellectuelle et bourgeoise. Son père est médecin, professeur à la faculté de médecine de Paris et un grand hygiéniste, d'ailleurs conseiller du gouvernement pour la lutte contre les épidémies. Alors sa mère, quant à elle, vient de la grande bourgeoisie juive. Et de santé fragile, Proust a toute sa vie de graves difficultés respiratoires causées par l'asthme. Il est un lecteur précoce et au lycée Condorcet, un élève brillant. La fin de ses études secondaires en 1889 s'accompagne du début de sa vie mondaine. Un étudiant en lettres, droit et sciences politiques, il fréquente les salons du Faubourg Saint-Germain. Fondateur du Banquet, il écrit pour diverses autres revues, chroniques, poèmes et textes brefs qui constitueront en 1896 le recueil intitulé Le plaisir, les plaisirs et les joues. Ouais.
Les plaisirs et les joues, c'est pas mal non plus.
C'est pas mal.
Mais là, c'est peut-être jour.
Voilà, c'est ça. Voilà, ça commence mal, ça commence mal, ça commence mal.
Alors, donc, il a écrit des textes brefs, donc il est bien dans un auteur, une nouvelle.
Voilà, c'est ça. Et donc, parce qu'évidemment, on va pas vous donner des lire comment la recherche du temps perdu, n'est-ce pas? Mais on a trouvé plein de petits textes, voilà, qui sont assez sympas, quoi. Voilà.
Tout à fait.
Alors, on vous propose. Bah là, on va en enchaîner plusieurs qui sont assez courts. Donc, vous allez avoir Après-dîner. Donc, c'est dans le chapitre 2 de Un dîner en ville. Donc, ça, c'est que des extraits qu'on trouve dans Les plaisirs et les jours. Ensuite, vous aurez Les marronniers. Donc là, c'est dans le chapitre des rêveries couleurs du temps. Et après, vous aurez deux portraits. Un portrait de Chopin, qu'on entend là en fond.
Oui, il me semble.
Et puis un portrait de Paulus Potter, qui est un peintre de
l'époque.
De l'époque. Voilà. Alors on va écouter tout ça à la suite.
Honoré, sentant que le mélange des vins lui avait un peu tourné la tête, partit sans dire adieu, prit en bas son pardessus et commença à descendre à pied les Champs-Élysées. Il se sentait une joie extrême. Les barrières d'impossibilité qui ferment à nos désirs et à nos rêves, le champ de la réalité était rompu, et sa pensée circulait joyeusement à travers l'irréalisable en s'exaltant de son propre mouvement. Les mystérieuses avenues qu'il y a entre chaque être humain et au fond desquelles se couche peut-être chaque soir un soleil insoupçonné de joie ou de désolation l'attiraient. Chaque personne à qui il pensait lui devenait aussitôt irrésistiblement sympathique. Il prit tour à tour les rues où il pouvait espérer de rencontrer chacune, et si ses prévisions s'étaient réalisées, il eût abordé l'inconnu ou l'indifférent sans peur, avec un tressaillement doux. Par la chute d'un écor planté trop près, la vie s'étendait au loin devant lui, dans tout le charme de sa nouveauté et de son mystère, en paysage ami qui l'invitait. Et le regret que ce fut le mirage ou la réalité d'un seul soir le désespérait. Il ne ferait plus jamais rien d'autre que de dîner ou de boire aussi bien, pour revoir d'aussi belles choses. Il souffrait seulement de ne pouvoir atteindre immédiatement tous les sites qui étaient disposés, çà et là, dans l'infini de sa perspective, loin de lui. Alors il fut frappé du bruit de sa voix, un peu grossie et exagérée, qui répétait depuis un quart d'heure « La vie est triste, c'est idiot !» Ce dernier mot était souligné d'un geste sec du bras droit, et il remarqua le brusque mouvement de sa canne. Il se dit avec tristesse que ces paroles machinales étaient une bien banale traduction de pareille vision qui, pensa-t-il, n'était peut-être pas exprimable. « Hélas, sans doute l'intensité de mon plaisir ou de mon regret est seule centuplée, mais le contenu intellectuel en reste le même. Mon bonheur est nerveux, personnel, intraduisible à d'autres, et si j'écrivais en ce moment, mon style aurait les mêmes qualités, les mêmes défauts, hélas, la même médiocrité que d'habitude. Mais le bien-être physique qu'il éprouvait le garda d'y penser plus longtemps, et lui donna immédiatement la consolation suprême, l'oubli. Il était arrivé sur les boulevards. » Des gens passaient à qui il donnait sa sympathie, certains de la réciprocité. Il se sentait leur glorieux point de mire. Il ouvrit son paletot pour qu'on vît la blancheur de son habit. Il lui seyait et l'œil rouge sombre de sa boutonnière. Tel, il s'offrait à l'admiration des passants, à la tendresse dont il était avec eux en voluptueux commerce. J'aimais surtout à m'arrêter sous les marronniers, immenses quand ils étaient jaunis par l'automne. Que d'heures j'ai passé dans ces grottes mystérieuses et verdâtres à regarder au-dessus de ma tête les murmurantes cascades d'or pâle qui y versaient la fraîcheur et l'obscurité. J'enviais les rouges gorges et les écureuils d'habiter ces frêles et profonds pavillons de verdure dans les branches, ces antiques jardins suspendus que, chaque printemps, depuis deux siècles, couvrent de fleurs blanches et parfumées. Les branches insensiblement courbées descendaient noblement de l'arbre vers la terre, comme d'autres arbres qui auraient été plantés sur le tronc, la tête en bas. La pâleur des feuilles qui restaient faisait ressortir encore les branchages qui déjà paraissaient plus solides et plus noirs d'être dépouillés, et qui, ainsi réunis au tronc, semblaient retenir comme un peigne magnifique la douce chevelure blonde répandue. Chopin, mère de soupirs, de larmes, de sanglots, qu'un vol de papillons sans se poser traverse, jouant sur la tristesse ou dansant sur les flots. Rêve, aime, souffre, crie, apaise, charme ou berce, toujours tu fais courir entre chaque douleur l'oubli vertigineux et doux de ton caprice, comme les papillons volent de fleur en fleur. De ton chagrin alors, ta joie est la complice. L'ardeur du tourbillon accroît la soif des pleurs. De la lune et des eaux, pâle et doux camarade, prince du désespoir, ou grand seigneur trahi, tu t'exaltes encore, plus beau d'être pâli du soleil inondant ta chambre de malade, qui pleure à lui sourire et souffre de le voir, sourire du regret et larmes de l'espoir. Sombre chagrin des ciels uniformément gris, plus triste d'être bleu aux rares éclaircies, et qui laisse alors, sur les plaines transies, filtrer les tièdes pleurs d'un soleil incompris. Poteur, mélancolique humeur des plaines sombres, qui s'étendent sans fin, sans joie et sans couleur, les arbres, le hameau, ne répandent pas d'ombre, les maigres jardinets ne portent pas de fleurs. Un laboureur, tirant des seaux, rentre, et chétive, sa jument résignée, inquiète et rêvant, anxieuse, dressant sa cervelle pensive, hume d'un souffle court, le souffle fort du vent.
Bon, ça donne envie d'aller voir les tableaux de ce Paulus Potter.
Voilà, qui n'est pas le grand-père d'Harry Potter, comme tu viens de dire.
C'était peut-être pas la peine de le répéter.
Donc, voilà, enfin, tout ça c'est bien écrit quand même. Hein,
ah,
ça,
c'est pas mal.
Voilà, hein,
c'est, quand même, hein.
Voilà. Alors, c'est pas forcément facile à lire,
non,
parce que les phrases sont parfois un peu longues. Voilà, il n'y a pas beaucoup de ponctuation.
Il y a des points virgules hein, quand même.
Voilà, oui, oui, il y a quand même. Mais bon, voilà, c'est.
Faut pas le supprimer. Hein.
Alors. Il y a un document pittoresque qui a été conservé et qui révèle que pour composer le fameux passage de la prisonnière où le héros et Albertine entendent depuis l'appartement les divers cris des marchands de rue, Proust a dépêché son concierge pour en écouter et les relever, hein, tous ces bruits de la rue.
Les cris de Paris, oui.
Alors, la signature du conseil, du concierge à Charmel, alors à je poste, André peut-être ou Antoine, voilà, permet de dater cette enquête du 31 mai au 1er octobre 1919. Bon, il a pris son temps, hein, mais pour relever voilà, tout ça. Et donc, voici ce que disent ces notes que nous nous sommes amusés à interpréter. Voilà. Donc, voilà, donc là, c'est une interprétation
libre.
Voilà, libre.
La Valence, la belle Valence, la fraîche orange. Couteau, ciseaux, rasoir. Couteau, ciseaux, rasoir.
Avec des scies à repasser, et v'là le repasseur.
Tonneau, v'là le chaud du tonneau.
Vitrier, vitrier.
À la moule fraîche, c'est bonne, à la moule. V'là le macro frais, v'là le macro. Merlon à frire, à frire.
J'ai du bon moulon pour les petits oiseaux.
Archand d'habits, chiffon, ferraille à vendre.
Amusez-vous, mesdames, il y a là le plaisir.
Avez-vous des chaises à canner, à rempailler? V'là le rempailleur.
Ton les chiens, coupe les chats, les queues et les oreilles.
Bon fromage à la crème, bon fromage.
À la tendresse, à la verduresse, artichaut vert. Et tendre, artichaut. Pois vert, au boisseau, pois vert. Haricots verts et tendres haricots.
Raccommodeur de faïence et porcelaine, je répare le verre, le marbre et le cristal, l'or, l'ivoire, l'albâtre et objets d'antiquité. Voilà le réparateur.
Et ben voilà.
Ben voilà. Alors moi je voudrais quand même parler, parce que c'est pas le premier à avoir fait ça. Hein. Il y a un compositeur, musicien de la Renaissance, Clément Jeannequin, qui a écrit l'écrit de Paris, alors quelque chose d'à peu près similaire, une chanson polyphonique, qu'il intitulait, alors pas l'écrit de Paris, « Voulez-vous ouïr l'écrit de Paris ?» C'était un tableau sonore, hein, on peut dire, des crieurs, des marchands ambulants qui défilaient dans les rues. Et je pense qu'avant Clément Jeannequin, bah, ça a peut-être été fait, mais peut-être pas déposé en partition. Mais Jeannequin, on a les partitions de tous ces crieurs. Voilà, pour la petite histoire.
Voilà, très bien. Donc on s'est amusé un peu à faire ça, voilà.
Oui, on note la qualité des instruments de musique.
Un petit entracte. Voilà, la crécelle particulièrement. Donc là, je vous propose d'écouter un extrait, toujours des plaisirs et des jours, un petit extrait qui s'appelle « Souvenir ».
Je passais l'année dernière quelque temps au grand hôtel de Trouville, situé à l'extrémité de la plage, et qui regarde la mer. La fade exhalaison des cuisines et des eaux sales, la luxueuse banalité des tentures variant seule la grisâtre nudité des murs et complétant ce décor d'exil, avait incliné mon âme à une dépression presque morbide, quand, un jour de grand vent qui menaçait de devenir une tempête, traversant un couloir pour retourner à ma chambre, une odeur délicieuse et rare me fit arrêter net. Il m'était impossible de l'analyser, mais elle était si complexement et si richement florale que des champs entiers, des champs florentins, je supposais, avaient dû être dénudés pour en composer quelques gouttes. La volupté était telle pour moi que je restais un très long espace de temps sans m'en aller, par une porte à peine entr'ouverte, et qui seule avait pu laisser passage à ce parfum, je découvris une chambre qui, rien qu'à la si peu apercevoir, donnait l'impression de la plus exquise personnalité. Au milieu même de cet écœurant hôtel, comment un hôte avait-il pu sanctifier une si pure chapelle, raffiner un si merveilleux boudoir, isoler une tour d'ivoire et de parfum? Un bruit de pas invisible du couloir, et d'ailleurs un respect presque religieux, m'empêchait d'ouvrir davantage la porte. Tout à coup, le vent furieux du dehors ouvrit une fenêtre mal fermée du couloir, et un souffle salé entra par larges et rapides ondes, délayant sans le noyer le concentré parfum floral. Jamais je n'oublierai cette fine persistance de l'odeur primitive, donnant sa tonalité à l'arôme de ce vaste vent. Le courant d'air avait fermé la porte et je descendis. Mais par un hasard qui me contraria au plus haut point, quand je me renseignais auprès du directeur de l'hôtel sur les habitants du 47, car ces créatures d'élection avaient un numéro comme les autres, on ne put me donner que des noms qui étaient évidemment des pseudonymes. J'entendis seulement une fois une voix d'homme, frémissante et grave, solennelle et douce, appelée Veillette, Violet, et une voix de femme d'un charme surnaturel répondre « Clarence ». Malgré ces deux prénoms anglais, il paraissait, au dire des domestiques de l'hôtel, parler habituellement le français, et sans accent étranger. Ils prenaient leur repas dans une chambre spéciale et je ne pouvais les voir. Une seule fois, je vis disparaître en une fuite de ligne d'une telle expression spirituelle, d'une distinction si unique qu'elle reste pour moi une des plus hautes révélations de la beauté, une femme grande, la face détournée, la taille insaisissable dans un long manteau de laine brune et rose. Quelques jours après, montant un escalier assez éloigné du corridor mystérieux, je sentis une faible odeur délicieuse, certainement la même que la première fois. Je me dirigeai vers le corridor et, arrivé presque en face de la chambre, je fus assourdi par la violence des parfums qui tonnaient comme des orgues avec un mesurable accroissement d'intensité de minute en minute. La chambre démeublée apparaissait comme éventrée par la porte grande ouverte. Une vingtaine de petites fioles brisées gisaient à terre et des taches humides souillaient le parquet. « Ils sont partis ce matin, » me dit le domestique qui essuyait par terre. « Et pour que personne ne puisse se servir de leurs odeurs, comme ils ne pouvaient pas les remettre dans leur malle à cause des choses qu'ils avaient achetées ici et qui les remplissaient, ils ont cassé les flacons. C'est du propre. » Je me précipitais sur un flacon qui gardait quelques dernières gouttes. À l'insu des mystérieux voyageurs, elle parfume encore ma chambre. Dans ma banale vie, je fus un jour exalté de parfums qu'exhalait le monde jusque-là si fade. C'étaient les troublants annonciateurs de l'amour. Lui-même cependant était survenu avec ses roses et ses flûtes, sculptant, tapissant, fermant, parfumant tout autour de lui. Les plus vastes souffles de la pensée même, il s'est mêlé à eux qui l'ont, sans l'affaiblir, infinisé. Mais de lui-même, qu'ai-je su? Ai-je en rien éclairci son mystère, et de lui connu autre chose que le parfum de sa tristesse et que l'odeur de ses parfums? Puis il s'en est allé, et les parfums, les flacons brisés, s'exhalèrent avec une intensité plus pure. Une goutte affaiblie imprègne encore ma vie.
Rediffusion d'une émission de Principe Actif.
Voilà, on
relève
l'importance des cinq sens, hein, tout au long, si j'ai bien compris, de l'œuvre de Proust. Hein, il jouait beaucoup là-dessus pour justement travailler sur sa mémoire et sur son existence même.
Alors, le livre Les plaisirs et les jours, il va passer à peu près inaperçu, hein, à l'époque où il est sorti, et la critique va même l'accueillir avec sévérité, notamment l'écrivain Jean Lorrain, réputé pour la férocité de ses jugements. Il en dit d'ailleurs tant de mal qu'il se retrouve au petit matin sur un pré, un pistolet à la main, face à lui également un pistolet à la main, Marcel Proust, avec pour témoin le peintre Jean Béraud.
Ouais, alors, des duels encore. Hein.
Ouais. Donc tout se termine sans blessure, mais non sans tristesse pour l'auteur débutant. Hein. Alors ce livre voit à Proust une réputation de mondain dilettante qui ne se dissipe qu'après la publication des premiers tomes de À la recherche du temps perdu.
Et le succès n'est pas venu comme ça. Hein.
Bah non, c'est.
Ah, ça a été un peu long parce que il commence le premier tome La recherche du temps perdu. Il a déjà 42 ans. Donc finalement, il est déjà assez âgé quand officiellement il publie le premier tome de La Recherche.
Tout à fait. Alors, maintenant, ce que je vous propose d'écouter, alors c'est un texte qui a été publié dans une revue, mais en fait qui n'a pas été repris par Proust dans Les plaisirs et les jours.
Hein. D'accord.
Et donc ça s'appelle Choses normandes. Mais comme ça parlait de choses normandes, justement, je me suis dit que voilà.
Ah, voilà, on était à Trouville déjà tout à l'heure.
Voilà, donc hein, c'était pour continuer. Hop, il y a mon texte qui s'en va. Voilà. Alors là, on va écouter. Choses normandes.
Depuis quelques jours, on peut contempler le calme de la mer dans le ciel redevenu pur, comme on contemple une lame dans un regard. Mais il n'y a plus personne pour se plaire aux folies et aux apaisements de la mer en septembre, puisqu'il est élégant de quitter les plages à la fin d'août pour aller à la campagne. Mais j'en vis, et si je les connais, je visite souvent ceux dont la campagne est voisine de la mer, est située au-dessus de Trouville, par exemple. J'en vis celui qui peut passer l'automne en Normandie pour peu qu'il sache penser et sentir. Ces terres, jamais bien froides, même en hiver, sont les plus vertes qu'il y ait, naturellement gazonnées, sans la plus mince lacune et même au revers des coteaux, en l'aimable disposition appelée fond boisé. Souvent d'une terrasse ou sur la table servie fume le thé blond, on peut apercevoir le soleil rayonnant sur la mer et des voiles qui viennent, tous ces mouvements de ceux qui partent, de ceux qui ont encore la force de désirer et de vouloir. Du milieu si paisible et doux de toutes ces choses végétales, on peut regarder la paix des mers ou la mer orageuse et les vagues couronnées d'écume et de mouettes qui s'élancent comme des lions, faisant onduler sous le vent leurs crinières blanches. Mais la lune, invisible à tous pendant le jour, mais qui continue à les troubler de son magnétique regard, les dompte, arrête soudain leur assaut et les excite de nouveau avant de les faire reculer encore, sans doute pour charmer les mélancoliques loisirs de l'assemblée des astres, prince mystérieux des ciels maritimes. Celui qui vit en Normandie voit tout cela, et s'il descend dans la journée au bord de la mer, il l'entend, qui semble rythmer ses sanglots aux élans de l'âme humaine, la mer qui dans le monde créé correspond à la musique, puisque, ne nous montrant rien de matériel et n'étant point à sa manière descriptive, elle semble le chant monotone d'une volonté ambitieuse et défaillante. Le soir, il remonte dans la campagne et de ses jardins. Il ne distingue plus le ciel et la mer qui se confondent. Il lui semble pourtant que cette ligne brillante les sépare au-dessus. C'est bien le ciel, c'est bien le ciel, cette légère ceinture d'azur pâle, et la mer mouille seulement ses franges d'or. Mais voici qu'un vaisseau l'écussonne qui semble naviguer en plein ciel. Le soir, si la lune brille, elle blanchit les vapeurs très épaisses qui montent des herbages, et par un gracieux enchantement, le champ semble être un lac ou un pré couvert de neige. Ainsi, cette campagne, la plus riche de France, qui avec son abondance intarissable de fermes, de vaches, de crèmes, de pommiers à cidre, de gazon épais, n'invite qu'à manger et à dormir, se pare la nuit venue de quelques mystères et rivalise de mélancolie avec la grande plaine de la mer. Enfin, il y a quelques habitations tout à fait désirables, les unes assaillies par la mer et protégées contre elle, d'autres perchées sur la falaise, au milieu des bois, ou s'étendant largement sur des plateaux herbeux. Je ne parle point des maisons orientales ou persanes qui plairaient mieux à Téhéran, mais surtout des maisons normandes, en réalité moitié normande, moitié anglaise, où l'abondance des épis de faîtage multiplie les points de vue et complique la silhouette où les fenêtres tout en largeur ont tant de douceur et d'intimité, où des jardinières faites dans le mur sous chaque fenêtre, des fleurs pleuvent inépuisablement sur les escaliers extérieurs et sur les halls vitrés. C'est là que je rentre car la nuit tombe. Et je vais relire pour la centième fois le Confiteor du poète Gabriel Trarieux.
Donc voilà, les choses normandes.
Les choses normandes avec les maisons à la fois normandes, à la fois anglaises. Donc anglo-normandes.
Voilà. Enfin, sachant que c'est les Anglais qui ont copié sur nous. Hein,
bien
enfin,
sûr.
Enfin, c'est parce qu'on est allé les envahir, alors... Alors, maintenant, je vous propose d'écouter un autre texte qui, lui, est bel et bien dans les plaisirs et les jours. Donc, c'est dans le chapitre 4 de Rêverie de couleur du temps.
Oui.
Et cet extrait s'appelle « Famille écoutant de la musique ».
Pour une famille vraiment vivante, où chacun pense, aime et agit, avoir un jardin est une douce chose. Les soirs de printemps, d'été et d'automne, tous, la tâche du jour finie, y sont réunis. Et si petit que soit le jardin, si rapproché que soient les haies, elles ne sont pas si hautes qu'elles ne laissent voir un grand morceau de ciel, où chacun lève les yeux sans parler, en rêvant. L'enfant rêve à ses projets d'avenir, à la maison qu'il habitera avec son camarade préféré pour ne le quitter jamais, à l'inconnu de la terre et de la vie. Le jeune homme rêve au charme mystérieux de celle qu'il aime. la jeune mère à l'avenir de son enfant, la femme autrefois troublée découvre au fond de ses heures claires, sous les dehors froids de son mari, un regret douloureux qui lui fait pitié. Le père, en suivant des yeux la fumée qui monte au-dessus d'un toit, s'attarde aux scènes paisibles de son passé qu'enchante dans le lointain la lumière du soir. Il songe à sa mort prochaine, à la vie de ses enfants après sa mort, et ainsi l'âme de la famille entière monte religieusement vers le couchant, pendant que le grand tilleul, le marronnier ou le sapin répand sur elle la bénédiction de son odeur exquise ou de son ombre vénérable. Mais pour une famille vraiment vivante, où chacun pense, aime et agit, pour une famille qui a une âme, qu'il est plus doux encore que cette âme puisse le soir s'incarner dans une voix, dans la voix claire et intarissable d'une jeune fille ou d'un jeune homme qui a reçu le don de la musique et du chant. L'étranger, passant devant la porte du jardin où la famille se tait, craindrait en approchant de rompre en tout comme un rêve religieux. Mais si l'étranger, sans entendre le chant, apercevait l'assemblée des parents et des amis qui l'écoutent, combien plus encore elle lui semblerait assister à une invisible messe. C'est-à-dire, malgré la diversité des attitudes, combien la ressemblance des expressions manifesterait l'unité véritable des âmes, momentanément réalisée par la sympathie pour un même drame idéal, par la communion à un même rêve. Par moments, comme le vent courbe les herbes et agite longuement les branches, un souffle incline les têtes ou les redresse brusquement. Tous, alors, comme si un messager qu'on ne peut voir faisait un récit palpitant, semble attendre avec anxiété, écouter avec transport ou avec terreur une même nouvelle qui pourtant éveille en chacun des échos divers. L'angoisse de la musique est à son comble. Ses élans sont brisés par des chutes profondes suivies d'élans plus désespérés. Son infini lumineux, ces mystérieuses ténèbres, pour le vieillard, ce sont les vastes spectacles de la vie et de la mort. Pour l'enfant, les promesses pressantes de la mer et de la terre. Pour l'amoureux, c'est l'infini mystérieux. Ce sont les lumineuses ténèbres de